Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Chaim Rotenberg, auteur d'un nouvel ouvrage sur les enseignements de Léon Ashkenazi d'Imanitou. Bonsoir Chaim.
Bonsoir, bonsoir.
Depuis plus d'une dizaine d'années, vous vous occupez de la retranscription des enseignements de Léon Ashkenazi, des enseignements que vous avez suivis pendant plus de 20 années. Vous avez rédigé et publié jusqu'à ce jour 7 livres en hébreu dans le cadre de la Fondation Manitou. Et par ailleurs, vous enseignez régulièrement à Jérusalem, transmettant principalement à un public israélien la pensée de Léon Ashkenazi. Et votre actualité, c'est donc la parution du 8e volume de la série Sad Midrash Atoladot, qui rassemble les enseignements de Manitou sur le Midrash au cours de ses 50 ans d'enseignement. Il faut rappeler un petit mot sur Léon Ashkenazi que son enseignement a marqué de son empreinte l'histoire du judaïsme francophone. Il est né à Oran en 1922, il nous a quittés à Jérusalem en 1996 et il a été le phare pendant près d'un demi-siècle de la pensée juive en France et en Israël. Comme il l'a écrit, sa destinée a été marquée par trois étapes historiques qui ont influencé ses engagements. Il a été juif, hébreu, puis israélien. La première étape de sa formation correspond à son enfance passée à Oran, interrompue par la Seconde Guerre mondiale. La deuxième période est sa participation à la renaissance du judaïsme français d'après-guerre, là où il combine sa formation kabbalistique aux enseignements du philosophe Jacob Gordin. Et enfin, la dernière période débute suite à la guerre des Six Jours, lorsque Manitou émigre en Israël et devient l'un des plus importants porte-parole du sionisme religieux pour les juifs francophones. De lui, son maître, le Rav Zvi Yehuda Cook, disait « Il est encore plus grand que ses maîtres ». Léon Ashkenazi a été un des principaux représentants de l'école de pensée juive de Paris, qui a permis de reconstruire la communauté juive de France après la guerre, et de l'école française de Jérusalem après son alia, et beaucoup aujourd'hui revendiquent encore son attachement à sa pensée. Maître de l'oral, il a éclairé, guidé, étonné, fasciné et bouleversé des milliers d'élèves en France, en Israël et dans d'autres pays. Et aujourd'hui, des élèves ont accès à ces enseignements. Alors, est-ce que d'abord, Chaim, vous pouvez nous raconter la genèse de ces 8 ouvrages et est-ce que votre démarche est de permettre aux lecteurs de l'hébreu de découvrir la pensée du Rav Ashkenazi?
Bon, d'abord, je vais corriger une petite erreur. J'en suis au 10e.
D'accord.
Vous avez signalé à juste titre cette série-là dont le huitième volume vient de paraître. Mm-hmm. Il y a une autre série que je rédigeais également sur la tfila, sur la prière, qui a déjà 2 volumes qui sont parus, en hébreu aussi. Et puis, dans le cadre de la Fondation, il y a aussi un certain nombre d'autres ouvrages que je ne rédige pas qui sont parus, ce qui fait que la Fondation a publié ces 15 dernières années, autant que je me souvienne, 16 volumes d'enseignement de Manitou. Bon, il y a encore un immense travail évidemment à faire. Et la genèse de ce travail, c'est effectivement la découverte par toute une génération de jeunes Israéliens qui ne viennent pas d'un milieu francophone. Qui ont découvert, de manière très diverse d'ailleurs, cette pensée qui pour eux j'ai eu plusieurs fois l'occasion de l'entendre de la bouche de jeunes Israéliens, mais aussi de gens qui sont un peu plus âgés, qui ont donc un peu un bagage d'études derrière eux beaucoup plus important, qui nous disent c'est une découverte absolument fondamentale pour nous, pour la simple raison que, pour la première fois, quelqu'un nous parle au niveau de notre identité. Et je pense que c'est ça ce qui avait aussi fait la force de l'enseignement de Manitou en France quand il y est arrivé après la guerre en 1946. Et là, dans le public israélien de nos jours, la question identitaire est partout. Et Manitou vient répondre à cette question-là et répond, je dirais, dans un langage qui n'est pas religieux, dans un langage qui n'est pas non plus philosophique, mais dans un langage qui est, comme il le disait lui-même, anthropologique, qui donc s'adresse a priori à tout le monde. Et donc tout le monde, sans faire partie de telle ou telle paroisse, peut comprendre de quoi il veut parler quand il parle de qui nous sommes ou qui nous devons être. Ça parle à tout le monde. Voilà, je pense que c'est ça le fait essentiel.
Alors, on va résumer dans un instant deux points que vous venez d'évoquer. La méthode de Shushanis, de Manitou, pardon, qui a fait son succès. Et le fait qu'aujourd'hui, eh bien, un public non francophone eh bien, redécouvre cette pensée. Ça a commencé en Israël depuis quelques années et c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Avant d'évoquer ça, est-ce que vous pouvez nous dire si ce nouveau volume eh bien, est une ligne directrice? Et si oui, quelle est-elle?
Bon, ben, ce nouveau volume qui est consacré à deux personnages absolument essentiels dans la pensée de Manitou, Yosef d'un côté, Yehuda de l'autre, donc et leur affrontement durant les chapitres qui leur sont consacrés dans la Torah, ça commence à la paracha de Vayeshev jusqu'à la fin du livre de Bereshit, mais aussi en tant que typologie historiosophique, comme disait Manitou. Finalement comme deux des tendances principales qui déchirent le peuple d'Israël, le peuple juif jusqu'à nos jours, et qui a des ramifications très importantes à l'intérieur de la société israélienne, bien évidemment, mais aussi au niveau des rapports entre la société israélienne, redevenue hébreu, comme disait Manitou, et la société juive de diaspora, qui doit faire face à ce questionnement et trouver ses propres réponses.
On a des
donc, je veux dire, Manitou se sert bien évidemment de cette étude au niveau des versets lui-même. N'oublions pas que c'est un Talmid Chacham d'abord. Donc c'est un maître de l'étude, c'est un maître du Midrash. Donc il examine très attentivement et très minutieusement ce qui est dit dans les versets. Et puis à travers le Midrash, il fait éclater, comme il disait lui-même, éclater la problématique du verset pour éclairer notre propre problématique actuelle, moderne, à tous les niveaux.
Alors c'est un cas unique hein, pour un penseur. Nous avons des milliers d'heures d'enregistrement de ces cours ou conférences, peut-être même davantage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé pour retranscrire ces enseignements? Vous les avez écoutés, retranscrits littéralement à l'oral? Est-ce que vous y avez ajouté votre touche?
Alors, d'un côté, on peut dire, bon, y a effectivement une mise par écrit, je dirais. Et c'est plus que parce que passer de l'oral à l'écrit, c'est pas toujours évident. L'oral de Manitou est très riche et très comment dire ça, quand on l'écoute,
c'est foisonnant,
voilà, oui, c'est même plus que foisonnant, mais le style oral passe très mal à l'écrit. Bon, alors qu'il y a une phase de réécriture, mais quand je dis réécriture, ça ne veut pas dire que je change ce qu'il dit, mais disons de réordonnement de ce qui est enseigné. Et puis, finalement, c'est ça, finalement, la plus grosse partie du travail. Je dirais que c'est une espèce de puzzle à reconstituer, parce que Manitou parle du même sujet à travers un nombre incalculable de cours. Un nombre incalculable de cours, donc pour étoffer parfois ce qu'ils disent par simple allusion. Bon, il faut rajouter un morceau d'un autre cours et puis rajouter quelques notes en bas pour expliquer le contexte, etc., etc. Donc il y a un véritable travail. Ce volume-là m'a pris à peu près 2 ans de travail.
Oui, c'est énorme.
2 ans de travail. Bon, il fait quand même 400 pages. 2 ans de travail pour justement choisir finalement une ligne directrice et puis autour de cette ligne directrice étoffer et mettre tout ce qui avait rapport avec ces principaux cours donc qui sont retranscrits. La plupart ont été dits en français, donc il a fallu les traduire aussi. Traduire Manitou du français à l'hébreu, c'est pas toujours très simple. Il a sa propre langue, il a son propre vocabulaire, et puis surtout reconstituer ce puzzle pour que ça soit cohérent et que, encore une fois, une génération qui n'a pas qui n'a pas connu la problématique, identitaire française d'après-guerre. Lui faire passer cette problématique-là en hébreu, des fois, bon, il faut aussi faire certaines adaptations. Mais encore une fois, je ne rajoute rien de moi là-dedans. Il n'est certainement pas question que je fasse une espèce de commentaire de ce qu'aurait dit Manitou, ce qui est dans le livre. C'est mot pour mot ce que a dit Manitou par lui-même.
D'accord, donc rien de moins, rien de plus.
Surtout pas.
Alors, comme son maître Jacob Gordin, Manitou est un maître de l'oral et j'ai relu récemment ce qu'il disait de l'écriture des livres. C'est une petite citation qui est apparue dans Étincelle de Manitou, le tome je cite Manitou. On me demande pourquoi je n'écris pas. La vraie raison, c'est que je n'ai pas le temps, mais aussi j'ai peur de ce que l'on fera de ce que j'ai écrit. En hébreu, je veux bien, mais pas en français. Mon maître était de tradition orale et j'ai encore une inhibition à écrire, non pas parce que je n'ai pas le temps, mais parce que j'ai peur de ce que le lecteur va en faire. En hébreu, je suis très à l'aise et suis une petite explication pour dire pourquoi sa pensée de l'oral à l'écrit passe mieux en hébreu qu'en français. Alors, est-ce qu'on peut dire que la pensée de Manitou ne se comprend qu'en hébreu? Il n'y a que l'hébreu qu'elle peut ne pas être trahie.
Bon, mais d'abord, comme vous venez de le dire très bien, Manitou avait très très peur de voir son enseignement transcrit en français. Il a même, à une certaine occasion, dit qu'il avait peur que finalement cet enseignement ne soit pas lu par des juifs, mais soit lu par un public non juif qui n'étant pas ne connaissant pas suffisamment les problématiques soulevées dans ces cours, le comprennent de travers si c'est pas plus que ça. Donc quand la question lui avait été posée, pourquoi ne pas mettre par écrit tel ou tel enseignement, et plus il était plus que réticent. La seule chose qu'il a accepté de faire, comme vous le savez, c'est de laisser rééditer les articles qu'il avait écrits lui-même, ce qui a été fait dans La Parole et l'Écrit, dans les deux tomes de La Parole et l'Écrit, et Manitou avait pris soin de relire et de corriger éventuellement tel ou tel passage quand ça a été réédité par mon oncle, Marcel Goldman. En hébreu, je pense que la problématique est différente, même s'il y avait, je dois le dire, des réticences de la part de Manitou. Sans aucun doute, je veux dire, quand j'ai commencé ce travail-là, pas que moi, il y a une quinzaine d'années, je l'ai fait même, moi-même avec une certaine réticence. Mais finalement, ce qui l'a emporté, c'est que si on ne le faisait pas maintenant, tout cet enseignement-là... finalement serait perdu. Et cette jeune génération israélienne n'aurait pas accès à cette richesse, à cette tradition que Manitou nous a transmise. N'oublions pas que Manitou était fidèle à l'enseignement de ses maîtres. Il disait toujours « je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu ». Donc il y a l'importance de la transmission, elle doit être orale, sans aucun doute, parce que, comme il expliquait lui-même, orale ça veut dire face à face. Et face à face, ça veut dire qu'on comprend la problématique qui préoccupe celui qui pose la question, l'élève. Alors que l'écrit, c'est effectivement dangereux. Un, parce que ça fige le texte. Et deux, parce que effectivement, il y a aucune garantie de compréhension de la part du lecteur. Donc, je peux parler de mon expérience, puisque j'enseigne moi-même après le contenu de ces livres. Je dois dire que pour moi, des choses qui me paraissent claires et évidentes demandent des fois des heures d'explication. Donc il faut en être conscient, effectivement. Il y a un certain risque, mais d'un autre côté, je pense, et ça j'en ai parlé très longuement aussi avec les deux gendres de Manitou, qui eux sont israéliens complètement, J'en ai parlé très longuement avec eux. Finalement, le risque de perdre toute cette richesse-là et toute cette tradition a fait que bon, la fondation a décidé de mettre par écrit ces enseignements-là.
Alors, vous l'avez répété, hein, vous avez insisté, ce sont des enseignements qui s'adressent à un public qui parle hébreu et un public de tout niveau, même si la méthode de Manitou est exigeante. Elle repose essentiellement sur deux éléments, la réhabilitation des intuitions immédiates de la conscience juive comme cohérence de la pensée et la fameuse historiosophie, autrement dit la connaissance du sens de l'histoire. Et cette méthode, il la tient essentiellement de son premier maître ashkénaze, le philosophe Jacob Gordin, qu'il a rencontré juste après la guerre à un camp d'été des EI, des éclaireurs, et qui sera aussi son professeur en matière juive à l'école d'Orsay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui fait à la fois la saveur et la pertinence des enseignements de Léon Ashkenazi ? Est-ce que c'est s'inscrire dans cette tradition ? Vous le disiez aussi, il cite beaucoup hein, ses prédécesseurs. Qu'est-ce qui fait le sel de cet enseignement ?
Mais c'est une question que je crois... je ne sais pas s'il y a une réponse définitive à cette question-là, mais je pense que... Le secret, le génie pédagogique de Manitou, n'ayons pas peur après tout d'employer ce mot-là, le génie pédagogique de Manitou, c'est d'avoir compris quelle était la problématique des gens qu'il rencontrait. Alors, après la guerre, c'est bien évident, on est après la Shoah, et donc après la Shoah, Manitou l'a dit toute sa vie, on ne peut pas rabâcher ce qui a été dit avant, simplement. Ça ne tient pas la route. Il faut reformuler les choses en prenant en compte deux événements. Un, la Shoah à Auschwitz, et le deuxième, c'est Hiroshima aussi. Manitou insistait aussi là-dessus. Il faut reformuler l'enseignement traditionnel. Donc, premièrement, il faut avoir une tradition, et ça, il l'a reçu de ses maîtres. Vous avez parlé de la période d'Oran, mais ce n'est pas que de la période d'Oran. N'oublions pas que Manitou aussi a étudié avec ses maîtres la Kabbalah au Maroc en 42. Mm-hmm. Il a reçu évidemment aussi l'enseignement de son grand-père, le Rav Chaim Toboul, qui était son grand-père du côté de sa mère, avec qui il a étudié jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Tous les jours, il étudiait avec lui depuis tout petit, et Manitou le disait, depuis l'âge qu'il avait 5-6 ans. Il étudiait avec lui la paracha de la semaine avec le commentaire du Shla et le Zohar. Donc tous ces enseignements-là qui lui ont été formulés, d'ailleurs la plupart, non pas en français, mais en judéo-arabe, Manitou les a confrontés finalement avec la problématique de sa génération. Et sa génération, c'est d'abord une génération qui, en Algérie même, suite au décret de Vichy, a perdu sa nationalité française, une citoyenneté, et donc a commencé à se poser la question de « mais qui nous sommes maintenant ?» Ça a continué en France après la guerre. Pourquoi on doit continuer à rester juif ? Qu'est-ce que ça veut dire être homme après la guerre aussi ? Et puis cette problématique-là, finalement, Manitou l'a rencontré aussi en Israël, quand il est arrivé juste après, en 68, après la guerre de Six Jours, où il a rencontré là une nouvelle formulation de cette problématique-là. Comment articuler le passage du juif à l'hébreu à travers ce qu'on appelle l'israélien. Donc, c'est la même méthode, finalement, durant toute sa vie. Mais, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, Manitou a choisi volontairement un vocabulaire universel anthropologique, identitaire, parce qu'il a très bien compris que pour répondre à la question « qui nous sommes aujourd'hui ?», on ne pouvait plus employer le langage religieux du 18e au 19e siècle, et on ne pouvait pas employer un langage de spécialiste de théologie ou de philosophie, parce que dans ce cas-là, personne ne comprendrait. Donc il a fait un effort très important, il l'a lui-même raconté à plusieurs personnes directement, pendant 4 ou 5 ans, de reformulation, de trouver la formulation qui allait pouvoir lui permettre d'atteindre son objectif. Là, la rencontre avec Jacob Gourdin est primordiale. Parce qu'il a découvert à travers Jacob Gourdin une manière de formuler en français universitaire, disait Manitou même, en français universitaire, les enseignements qu'il avait reçus, lui, de ses maîtres, que ce soit à Oran ou au Maroc. C'était pas évident, a priori. C'était pas du tout évident, et Jacob Gourdin lui a ouvert un certain nombre de portes, lui a donné un certain nombre de clés pour lui permettre de reformuler donc tous ces enseignements-là, en n'ayant pas peur, et c'est peut-être ça la chose la plus importante, en n'ayant pas peur de renverser l'ordre des choses. Ça, c'est une des choses principales que Manitou a toujours dit à propos de sa rencontre avec Gourdin. Manitou disait jusqu'à sa rencontre, il voyait que finalement tout le monde jugeait les choses au niveau de la culture philosophique européenne. Et par conséquent, quand il devait se confronter au fait qui s'appelle les Juifs, Israël, etc., il les jugeait d'après les catégories qui avaient le droit de citer finalement à l'université. Et Gourdin lui a dit, mais il faut faire le contraire. Il faut renverser les choses. Maintenant, c'est à nous les Juifs, avec notre chorma, avec notre sagesse, de juger l'histoire universelle. Et Manitou disait toujours en exemple, prenez par exemple l'exemple du 14 juillet 89 ou de la nuit du 4 août. C'est un événement de l'histoire de France, mm-hmm. qui a eu une importance considérable dans l'histoire européenne et puis après dans l'histoire mondiale. Mais dit Manitou, Gourdin m'a appris que c'est un moment très important, fondamental de l'histoire juive. Parce que c'est le début de l'émancipation. Alors, l'émancipation, c'est quelque chose de bien d'un côté, mais l'émancipation, c'est un immense piège de l'autre côté. Et donc, il faut juger, il nous faut, nous, maintenant, juger tous ces événements qui ont rapport, soi-disant, avec uniquement l'histoire européenne, française, universelle, etc. Ça fait partie de notre histoire, dans l'histoire aussi, et nous avons quelque chose à dire à ce propos-là. Nous avons un message universel aussi à faire passer, et nous ne devons pas avoir honte de dire, au nom du judaïsme, au nom de la Torah, que nous, les Juifs, nous considérons que tel événement de l'histoire universelle est positif et que tel autre événement est négatif. Et pourquoi ? Parce que ça viole la moralité. Et le critère moral pour Manitou est absolument fondamental, puisque c'est ça la clé du jugement de l'histoire du point de vue de l'historiosophie que vous avez mentionné auparavant.
Alors justement, hein, après, il expliquait après des siècles de Haskala qui avait affadi hein, la manière d'appréhender les textes de la tradition juive, eh bien en 1957, Léon Ashkenazi présentait au séminaire de l'Union mondiale des étudiants juifs un rapport qu'il avait intitulé « L'héritage du judaïsme et l'université ». Et dans ce rapport, il dénonçait l'inadéquation et l'inaptitude des facultés et des yeshivot à assurer un enseignement moderne et enraciné dans le judaïsme. Une lacune à laquelle il n'aura de cesse de remédier en donnant ses nombreuses conférences aux quatre coins de la francophonie. Est-ce que finalement, l'originalité de la méthode de Léon Ashkenazi, ce n'est pas d'avoir incarné une troisième voie ? Et c'est ce qui aurait séduit tant de personnes ?
En tous les cas, de l'avoir recherché passionnément, l'histoire du QEJ est là aussi quelque chose de fondamental dans sa vie. Mm-hmm. Cette initiative unique au monde, qui est le résultat, entre autres, du bilan qu'il a fait et qu'il a mis par écrit dans ce rapport que vous évoquez, d'ailleurs. Ce rapport que j'ai retraduit en hébreu en introduction à ce livre. Effectivement, on voit, il y a la critique de ce qui se passait dans les yeshivot en Europe après la guerre, mais il y a aussi une critique très, très acerbe de ce qui se passait dans les universités, y compris les universités israéliennes, où on enseignait ce qui avait été mis au point au 19e siècle en Allemagne, les sciences du judaïsme, comme on les appelle en français, disait Manitou, c'est de l'archéologie et c'est finalement une volonté très nette de procéder à l'enterrement peut-être grandiose du judaïsme en tant que tel. Et donc le leitmotiv de Manitou, c'est de dire d'abord cette sagesse juive traditionnelle est vivante, et plus que vivante, et elle a quelque chose à dire à l'universel humain. Donc premièrement, et c'est le sens de sa présence en France après la guerre, il faut lui faire retrouver sa place parmi les autres sagesses. Ce que l'université française européenne à l'époque considérait comme faisant partie justement de plutôt de quelque chose de mort complètement à enterrer et à laisser aux archéologues et aux historiens. Toute l'action de Manitou de ce point de vue-là, pas que de lui, de toute l'école de Paris, que ce soit Néer,
Eliane Amadou Lévy Valency,
Amadou Lévy Valency, bien entendu,
Emmanuel Lévinas,
et puis d'autres, enfin tous ceux qui participent après au colloque des intellectuels. C'est un grand moment aussi de l'histoire du judaïsme après la guerre.
Alors redonner justement, oui, redonner ses lettres.
Il faut non seulement redonner sa place à cette sagesse-là, cette Rochma-là, mais deuxièmement, il faut montrer qu'est-ce qu'elle a d'original et d'originel, et qu'est-ce qu'elle a à apporter à l'universel humain. Mais, et c'est ça le grand changement dans la position de Manitou, je parle là des années 53-54. Ce qui va l'amener finalement à rencontrer le Rav Tzvi Yehuda que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que Manitou commence par réaliser que finalement l'histoire juive maintenant ne se passe plus en Europe, mais elle se passe en Israël.
Alors précisément, hein, on l'a dit, il joue un rôle fondamental dans le renouveau de la pensée juive avec ses amis de l'école de Paris, pour qui le point de départ des sources de la tradition juive permet de questionner l'universel et, comme vous le disiez, redonner ses lettres de noblesse à la pensée juive et en même temps montrer son importance dans le grand débat des cultures. Et c'est ce qu'il fera à l'école d'Orsay, où il a été élève puis directeur au QEJ et dans ses leçons au colloque des intellectuels juifs de langue française. Et pourtant, après la guerre des six jours, il s'installe à Jérusalem et on l'appelle désormais Rav Yehuda Ashkenazi. Il devient l'un des plus importants porte-parole du sionisme religieux francophone. Il est à la tête d'un tout un réseau d'enseignement du judaïsme, comme l'Académie Talmudique Sephara de la Métitva, l'Institut d'études juives et israéliennes de Mayanot ou les centres francophones Yair. Il est renommé auprès du public francophone israélien, mais il demeure en revanche méconnu, voire même ignoré, j'espère que le terme n'est pas trop fort, dans les milieux universitaire. Et il le vit comme une blessure jusqu'à sa disparition à Jérusalem le 21 octobre 1996. Et pourtant, on a l'impression que depuis quelques années, les choses changent. On reconnaît et on étudie la pensée du Rav Ashkenazi dans des lieux d'études de langue hébraïque et même anglophone en Israël, et donc plus seulement francophone. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Pourquoi il y a depuis quelques années cette reconnaissance dans les milieux non francophones de cette pensée du Rav Ashkenazi?
Je voudrais juste remarquer, vous avez dit et pourtant, non, mais je pense pas que ce soit et pourtant. Je pense il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ou qui ne veulent pas comprendre le cheminement de Manitou. Je dirais c'est de manière tout naturelle, à partir du moment où, au milieu des années 50, il comprend que la seule manière pour Israël, en tant que peuple, en tant que représentant d'une sagesse, de s'exprimer à l'universel humain passe par l'État d'Israël, ce qui va se passer après en 67-68 est pour lui tout à fait naturel. Et pourquoi il comprend ça? Il a très bien expliqué lui-même. Il a dit finalement, cette sagesse dont on était dépositaire a été transmise d'une manière complètement erronée de ce point de vue-là, par finalement deux branches qui sont issues de l'enseignement de la Bible, un côté la chrétienté, de l'autre côté l'islam, qui fait que Israël n'a jamais pu, pendant les 2000 ans ou les 1900 années de son exil, parler directement à l'universel humain. Ce que l'universel humain a entendu, c'est ce que d'un côté en Europe, les curés, on dit, sans qu'il y ait quoi que ce soit de péjoratif là-dedans, et dans le monde, musulman, ce que les imams ont dit, mais c'est jamais Israël qui a parlé en tant que tel. Et dit Manitou, tant que nous sommes dans cette position-là d'être des juifs, finalement, des juifs, ce sont des, c'est pas une collectivité. Ce sont des personnes juives qui essaient de parler à tel ou tel truc. Mais c'est pas Israël en tant que tel qui est entendu. Donc la conclusion de Manitou, c'est pour qu'Israël soit entendu, il faut qu'Israël soit Israël. Et donc il y a un seul endroit où c'est possible, c'est en Israël. Et à partir d'Israël, Israël peut vraiment parler à l'universel humain. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez tous ces gens qui viennent de l'Extrême-Orient, par exemple, qui s'intéressent à ce qu'Israël a à dire, du Japon, de la Corée, etc., de tas de pays. Ça ne s'est jamais produit avant. Mais c'est possible parce que maintenant, Israël peut parler directement. Israël étant une parmi les nations du monde aujourd'hui, a son mot à dire et on vient l'écouter. Manitou disait que quand il a rencontré, plutôt c'est le contraire, quand le Dalai Lama a demandé à le rencontrer, une des premières questions que le Dalai Lama lui a posée, en dehors de la question, c'est comment vous avez fait pour résister, ne pas disparaître pendant toutes ces centaines d'années d'exil, ça a été finalement, mais quel est votre message pour l'universel humain? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Donc il y a une demande. Et cette demande n'est possible que parce qu'aujourd'hui, la nation d'Israël est redevenue hébreu, disait Manitou. Ça, c'est la première chose. Alors, maintenant, sur le phénomène israélien lui-même, effectivement, ces jeunes Israéliens, finalement, se posent la question de qui nous sommes, qui nous devons être. La Torah nous dit, vous êtes... Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, vous êtes une nation sainte, Goy Kadosh, et Mamlechet Kohanim, un peuple de prêtres, donc il y a un rôle universel. Ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre que parmi tous les penseurs contemporains, disons, du temps de Manitou, il y a très peu de personnes qui parlent au niveau de l'identité. Quand je dis très peu, c'est un euphémisme, il n'y a personne. Tout le monde continue à parler en utilisant le vocabulaire religieux. Qui avait cours au 18e, 19e siècle et pendant la première partie du 20e siècle, comme s'il ne s'était rien passé. Et là, il y a un problème. Manitou a expliqué une fois dans un de ses cours où il parlait de pédagogie, il disait la méthode traditionnelle, c'est Naase Venishma, tu fais et tu comprends. Mm-hmm. Il dit, mais aujourd'hui, ça ne marche plus, ça. Ça ne marche plus parce qu'on a oublié qu'avant le Naase Venishma, avant tu fais et tu comprends, il y a un préalable. À qui ça a été dit? Ça a été dit à ceux qui sont arrivés au pied du Har-Sinaï et qui donc étaient prêts à entendre ça. Or, mon rôle, dit-il, aujourd'hui, c'est de vous amener dans cette position-là, à être prêt à entendre la suite. Mais si personne ne vous a préparé à entendre cette suite-là, alors, quand on vous dit sans aucune préparation, on a assez venu chemin, ben vous dites, mais pourquoi? Il n'y a aucune raison. Donc la pédagogie de Manitou, c'est finalement de dire, premièrement, il faut enseigner qui nous sommes. Qui nous sommes, ça veut dire qui nous sommes en tant qu'humains. Qui nous sommes en tant qu'Israël, parmi une nation, parmi les autres. Je vais reprendre la formulation de Manitou en français. Une manière d'être homme spécifique, en rapport avec les 70 autres manières d'être homme, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette spécificité, dans cette particularité-là? Et non seulement particularité, mais particularité qui se prétend être l'universel vrai. C'est pas très si simple que ça à expliquer, mais c'est ça mon rôle. D'abord, je vais vous expliquer ça. Ensuite, on peut commencer à comprendre qu'est-ce qu'on veut de nous. Donc il y a deux étapes de son point de vue. Qui nous sommes, et ensuite qu'est-ce qu'on veut de nous. Et ça correspond tout à fait à la démarche justement de ces jeunes générations qui sont confrontées à des problèmes identitaires en permanence et qui cherchent la réponse à qui nous sommes. Et c'est ça le renouveau de la pensée de Manitou en Israël aujourd'hui.
Alors Chaim, c'est passionnant ce que vous nous racontez. On pourrait parler des heures des enseignements de Manitou. Hein. Vous avez dit tout à l'heure de génie de Manitou, ce rapport à l'identité d'Israël. son peuple, sa Torah, son pays, mais nous sommes tenus par le timing. Alors, il faut dire que, et on insiste, hein, qu'il y a ce nouvel opus de la série Sod Midrash Atoladot qui paraît, qui rassemble les enseignements de Manitou sur le Midrash depuis au cours de ces 50 ans d'enseignement. Donc, si on veut aller plus loin, évidemment, il faut se procurer ce livre. Si on est un auditeur ou une auditrice français, comment on fait pour se procurer l'ouvrage?
Eh bien, vous savez qu'en Israël, en ce moment, il y a un confinement assez sévère.
Oui.
Donc, les moyens de distribution sont limités, malheureusement. Les librairies sont fermées. Donc, pour l'instant, vous avez deux possibilités. Une, c'est d'aller sur le site de la Fondation et de commander directement le livre. Il sera livré dans les meilleurs délais possibles.
Donc c'est Manitou, donc www.manitou.org.il.
Oui, manitou.org.il, exactement. Bon, si des gens ont des problèmes pour accéder au site et faire leur commande, peuvent toujours me contacter directement. Je transmettrai sans aucun problème. Ou alors d'aller sur le site de l'éditeur lui-même, qui est aussi le site, vous savez, Chava Books, Chava Books, books.co.il.
Et on peut lancer aussi un appel si en France, un distributeur avait envie de se manifester pour diffuser le livre, eh bien,
tout
ce serait
fait.
Une grande chance.
Ça, c'est tout à fait, et je pense que les gens qui s'occupent de la vente des livres à la Fondation directement trouveront, malgré le confinement, un moyen de faire parvenir dans les meilleurs délais les livres nécessaires, tout à fait.
Alors, Chaim Rodenberg, il y a une question classique, mais néanmoins difficile, hein, dans cette émission, pour terminer. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner envie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive de lire ce livre, qu'est-ce que vous leur diriez?
Eh bien, je dirais que, pas que celui-là d'ailleurs, je dirais
la série,
parce qu'il y a une cohésion dans la série qui commence avec les deux premiers volumes, sont consacrés à la figure d'Abraham. Je pense qu'effectivement, tous les gens qui se posent la question, question de manière profonde, de qui nous sommes, censés être d'après notre tradition, qui veulent comprendre finalement la finalité de l'histoire du peuple d'Israël qui commence avec Abraham jusqu'à nos jours, qui veulent comprendre finalement pourquoi nous décidons de continuer à porter le flambeau et le faire passer de génération en génération, eh bien je leur recommanderais. Je leur recommanderai d'étudier très attentivement ces enseignements de Manitou.
Merci beaucoup, Chaim Rotenberg, d'avoir accepté de répondre à nos questions et je pense d'avoir donné envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de découvrir, voire redécouvrir, les enseignements de Manitou au travers de la série d'ouvrages que vous avez publiés et des ouvrages qui démontrent une nouvelle fois la modernité de ces enseignements, de ce génie du judaïsme qui n'a sans doute pas fini d'être étudié et d'éclairer le judaïsme en son entier. Merci, à très bientôt. Bonsoir.
Avec plaisir. Merci à vous. Bonsoir.